Présente dans 15 pays d'Afrique, Sono Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. C'est une maladie qui a triplé dans le monde depuis 1975. Selon l'OMS, 1,9 milliard d'adultes seraient en surpoids et 600 millions d'entre eux directement touchés par l'obésité. Et les jeunes n'échappent pas à ce constat. Toujours selon l'OMS, en 2016, 41 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses. Des chiffres terribles en constante augmentation, même dans les pays à faible revenu. Alors comment expliquer un tel phénomène difficile à dire car les causes sont complexes et ne se limitent pas à un problème de nutrition. Accéder à une meilleure compréhension des causes et des mécanismes biologiques conduisant à l'obésité est donc un enjeu majeur de la recherche car surpoids et obésité favorisent la survenue de certaines maladies comme le diabète ou l'hypertension artérielle. Et pour parler de ce problème complexe, nous recevons deux invités aujourd'hui. Le professeur Jean-Michel Aupert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de nutrition de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et professeur de nutrition à Sorbonne Université. Et le docteur Judith Aron-Wijneski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin endocrinologue nutritionniste, ancienne chef de clinique assistante dans le service de nutrition du professeur Aupert, ici présent à la Pitié-Salpêtrière à Paris, centre de référence de la prise en charge de l'obésité. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Professeur Aupert, surpoids, obésité, à partir de quel moment parle-t-on d'une maladie? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Quels sont les signes qui doivent nous alerter?
Alors, surpoids et obésité, ce sont un peu deux degrés différents d'augmentation du poids et de la masse graisseuse, hein, finalement.
Une question d'IMC, c'est ça, l'indice de masse corporelle, comme on dit.
Voilà. Donc, l'indice de masse corporelle, c'est l'indicateur qui est utilisé pour donner des statistiques sur l'obésité. Donc, alors, tout le monde connaît un peu l'indice de masse corporelle. Donc, l'indice de masse corporelle, c'est simplement le rapport de notre poids en kilos, par exemple 90 kilos, 100 kilos, sur le carré de la taille. Donc 1m75 fois 1m75, par exemple.
Mais est-ce que ça, c'est vraiment fiable comme valeur?
Alors, on utilise cet indicateur plutôt pour des groupes que pour une personne donnée. Et ça donne juste un repère, en fait, l'IMC.
C'est-à-dire qu'on dit qu'en fait, égal ou supérieur à 30, c'est de l'obésité, et égal ou supérieur à 25, c'est du surpoids, c'est ça, pour être clair?
Voilà, ce sont les seuils qui ont été retenus par l'OMS, surtout pour faire des statistiques en termes de catégories de poids dans le monde. Donc, quand l'indicateur IMC est entre 25 et 30, on parle de surpoids. Quand il est supérieur à 30, on parle d'obésité. Quand il est supérieur à 40, on parle d'obésité massive. Donc, c'est des catégories. Mmh. Et ça nous permet de savoir, dans tel pays ou au cours du temps, comment évoluer la fréquence de ces catégories de poids.
Docteur Aron, est-ce que c'est la même chose pour les enfants? Est-ce qu'on raisonne exactement de la même façon?
Non, il y a des courbes de poids et on est en percentile au-dessus de la courbe de poids. Mais on calcule quand même l'IMC et c'est le Z-score. Voilà, il y a des courbes de poids de référence et le médecin pédiatre reporte la taille et le poids et suit au-dessus de la courbe.
Alors, vous parlez du médecin pédiatre, mais justement, à partir de quel moment faut-il consulter? Quel doit être le signe pour les mamans qui nous écoutent? Quand est-ce qu'elles doivent emmener leur enfant? Est-ce qu'il y a certaines notions, docteur, professeur Aupert, non?
Alors, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter trop. Donc, la corpulence augmente en fonction de l'âge, et ça, c'est la croissance, c'est normal. Après, ce qui est intéressant et important, c'est effectivement, avec son médecin généraliste, avec son médecin traitant, de reporter au fur et à mesure de la croissance, au fur et à mesure de l'avancée en âge, où se situe l'enfant par rapport aux courbes habituelles. Et quand on dépasse beaucoup, effectivement, peut-être qu'un avis spécialisé est nécessaire, mais en première intention, c'est vraiment le suivi avec le médecin habituel, le généraliste ou le pédiatre qui est la première chose à faire.
Alors, ne pas s'inquiéter, docteur Aron, mais en même temps, il ne faut pas laisser l'obésité s'installer, c'est ça ? Sinon, elle peut devenir irréversible ou elle est plus difficilement traitable ?
Elle est plus difficile à prendre en charge, en effet. Donc, il faut en priorité adopter des modes de vie plus meilleurs pour la santé, donc une alimentation plus équilibrée et bouger plus.
Mais alors, ça, ça fait longtemps qu'on le dit. Et pourtant, les chiffres sont en constante augmentation. Est-ce que revoir notre mode de vie, c'est finalement ce qu'il y a de plus compliqué ?
Alors, évidemment, bien sûr, c'est très compliqué parce que la situation de notre vie quotidienne, c'est aussi le reflet d'un progrès et d'un progrès technologique et industriel absolument majeur qui fait que l'alimentation est beaucoup plus accessible et que, effectivement...
Pas partout dans le monde, il faut le rappeler.
Partout dans le monde, mais dans une grande partie du monde. Et d'autre part, effectivement, peut-être que nos villes sont quand même de mieux en mieux aménagées dans certaines parties du monde pour pouvoir nous permettre de mieux bouger. Mais à côté de ça, il y a des évolutions sociétales majeures qui font que effectivement notre consommation alimentaire a tendance à augmenter et puis notre quotidien, nos activités professionnelles ont tendance à être de plus en plus sédentaires. Donc c'est des grandes tendances sociétales qui sont parallèles au progrès technologique et industriel. Donc il faut applaudir le progrès qui met à disposition une alimentation plus abondante pour une grande partie de la population mondiale, mais il y a aussi des effets secondaires en fait de ces évolutions, et je pense que l'obésité c'est un effet secondaire de ces progrès. Donc peut-être qu'il faut progresser d'une autre façon pour pouvoir moins prendre de poids au cours du temps.
Docteur Aron Bijeski, les causes de l'obésité sont nombreuses, mais quelles sont celles qui reviennent le plus souvent ? Parce qu'on parle de problèmes nutritionnels évidemment, de prédispositions génétiques, de facteurs environnementaux, mais s'il y en avait un à mettre en avant ?
Bah, le premier, je pense que c'est quand même le problème de la balance énergétique, c'est-à-dire trop d'apports pour moins de sorties. Voilà, c'est surtout ça dans le temps et dans la durée.
Donc il faut faire du sport et manger plus équilibré.
Bouger
plus, ça on l'a bien compris. La prédisposition génétique, c'est des questions qui reviennent beaucoup. On en a sur Facebook notamment, Brice de Yaoundé qui nous demande comment lutter contre l'obésité héréditaire.
Alors, c'est dans la génétique, c'est sûr qu'il y a une partie génétique dans l'obésité. Il y a une prédisposition familiale ou héréditaire, mais il y a deux grandes sortes de prédispositions. Il y a vraiment des obésités qui sont directement génétiques, et donc des personnes ont un défaut génétique qui fait que elles vont être obèses, souvent avec d'autres maladies associées. Ça, c'est très très rare. C'est très très rare. Et puis, la majorité d'entre nous, quand on est dans un environnement d'abondance, on a un certain nombre de gènes de prédisposition qui fait qu'on va être à même de prendre du poids dans cet environnement d'abondance. Ça, c'est, disons, l'obésité plus commune. Et ça, c'est bien sûr important, mais ce sur quoi on peut travailler, c'est pas tellement nos gènes, c'est surtout notre environnement.
Et justement, alors, les facteurs environnementaux, docteur Aron, est-ce qu'on peut en dire un mot ?
Bah, ce qui commence à être étudié, c'est éventuellement les polluants, les toxiques, évidemment la susceptibilité génétique. Mais il y a aussi toutes les contraintes psychologiques qui entraînent potentiellement des troubles du comportement alimentaire. Enfin, les causes sont nombreuses et complexes.
Oui,
et peuvent s'associer chez une même personne.
Vous voulez rajouter un petit mot, professeur Repère ?
Comme vous dites, les facteurs d'environnement, c'est vraiment très intéressant. On vient d'évoquer le cas, par exemple, des polluants ou des toxiques. Donc, certains polluants ou certains toxiques peuvent avoir peut-être un effet direct sur nos cellules graisseuses pour les faire se multiplier. Donc ça, c'est des domaines de recherche assez actuels. Et puis, l'environnement, c'est aussi notre environnement de vie habituel. Donc, par exemple, la façon dont les villes sont construites, la façon dont on organise nos horaires de travail, l'accessibilité alimentaire, etc. Ça, c'est aussi une sorte d'environnement dans lequel on vit au quotidien et qui peut favoriser la prise de poids.
Gabriel Dédier est journaliste et auteur de l'ouvrage « On ne naît pas grosse » aux éditions La Goutte d'Or. Dans ce livre, retraçant son parcours, elle raconte le regard des autres, le mépris, les insultes, uniquement parce qu'elle pèse 150 kilos. Bonjour Gabriel Dédier.
Bonjour.
Vous parlez de réactions de rejet extrêmement violentes dans votre livre. Elles sont si fréquentes que cela?
Elles sont pas quotidiennes, mais elles sont régulières. Il peut m'arriver d'avoir des semaines où il se passe rien du tout, et puis il peut y avoir une avalanche d'agressions pendant quelques jours. Ce qui revient généralement, c'est que les transports en commun, en fait, quoi que je fasse, que je sois assise debout, dedans, dehors, je me fais rouspéter parce que je marche pas assez vite dans les escaliers, parce que je prends trop de place même quand je me sers à droite, sur la droite des escalators, quand je fais mes courses aussi. Quand je sors de la boulangerie, si j'achetais du pain, enfin, j'en suis au point où je le plie en deux, je le mets dans un sac pour pas qu'on voit que j'ai acheté du pain, parce que je sais qu'on va me faire des réflexions.
La grossophobie, le racisme anti-gros, est vraiment en pleine expansion selon vous?
La grossophobie, alors je sais pas si elle est en expansion ou... Moi, je vois pas trop de différence avec avant. Par contre, les gens assument vraiment. Ils vous parlent, en fait, comme sur les réseaux sociaux, sans filtre. J'ai toujours été victime de grossophobie, mais les gens qui assument d'être grossophobes, ça, c'est nouveau.
Il faut lutter contre l'obésité, pas contre les obèses, écrivez-vous. On le comprend aisément avec ce témoignage. Vous, personnellement, comment sont survenus vos problèmes de poids?
J'ai toujours fait une taille à peu près de plus que mes camarades. Et au lycée, je faisais 65 kilos pour 1m53. Mais j'étais très sportive et très musclée. Et en fait, on me disait tout le temps que j'étais pas une vraie fille, que j'étais trop costaud. Et c'est quelque chose qui m'a un peu complexée. Donc, je suis allée voir un nutritionniste, endocrinologue, pour perdre du poids. Et j'ai pas eu de bol parce qu'en fait, le médecin m'a diagnostiqué une maladie des glandes surrénales. Et en fait, il y a eu une erreur de diagnostic. En réalité, j'avais un syndrome d'ovaire polycystique, mais ça, on l'a su 7 ou 8 ans plus tard. Et donc, en fait, il m'a donné d'abord un cocktail d'hormones, il m'a donné plein de choses. Et j'ai pris du poids et ensuite, il m'a mise au régime avec des régimes hypocaloriques, comme on en faisait il y a 20 ans. Et donc, ces régimes, ça m'a un peu détraqué le rapport à l'alimentation. Là, sont survenus des troubles du comportement alimentaire et principalement de l'hyperphagie.
Et justement, avec le recul, est-ce qu'il y a eu un facteur ou des facteurs déclenchants concernant ces troubles de l'alimentation, justement?
Je pense que c'était vraiment le fait de me mettre à la diète. Enfin, moi, il y a 20 ans, quand on m'a mise au régime, c'était du bouillon, de la viande cuite à l'eau. Cette privation de nourriture, elle a rapidement fait que j'ai développé une obsession pour manger, en fait.
Alors aujourd'hui, vous pesez 150 kilos. Quel est l'impact sur votre santé en général?
Je fais des apnées du sommeil, c'est peut-être lié à ça. J'ai le souffle court, mais j'ai pas d'impact comme du diabète ou du cholestérol. J'ai pas d'hypertension non plus, j'ai pas de problème veineux, j'ai pas de problème d'articulation. Mais ça, je pense que c'est parce que je suis pas sédentaire. Je vais à la piscine, je marche énormément. J'habite au 7e étage sans ascenseur, donc les escaliers, je les monte.
Comment est-ce que vous allez aujourd'hui?
Écoutez, moi, je vais mieux en mieux.
Vous avez maigri en écrivant votre livre, hein, c'est ça?
Il y avait eu une petite amorce, en fait, oui, quand j'ai commencé à écrire mon livre. Mais en fait, depuis la sortie de mon bouquin, j'ai perdu du poids parce que là, je suis dans les 135. C'est parce que j'ai quasiment plus crise de d'hyperphagie parce que je vais mieux dans mes baskets. Et ça, c'est quelque chose d'important. Depuis la sortie du livre, j'ai des projets professionnels. Enfin, on m'a proposé de faire des documentaires, des tas de choses. Et du coup, le fait d'aller mieux... L'état dépressif, il s'amenuise et puis travailler aussi beaucoup sur mes sensations alimentaires. Tout ça, ça contribue à ce que je commence à perdre du poids assez régulièrement.
Vous vous acceptez tel que vous êtes aujourd'hui?
Oui. Enfin, j'ai l'impression qu'il a fallu que j'écrive ce livre pour me dire que je faisais la paix avec moi-même. Je ne me suis pas dit, je vais me mettre au régime, j'ai pas d'objectif chiffré. C'est juste que je vais mieux. Mais oui, je m'accepte en fait, j'ai fait la paix avec mon corps.
Mais écoutez, merci infiniment Gabriel Dédier. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur de l'ouvrage « On ne naît pas grosse » aux éditions La Goutte d'Or. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Priorité santé sur RFI.
Une réaction, professeur Aupert, je vous voyais prendre des notes pendant ce témoignage.
Oui, je pense que ce témoignage est très important et que c'est effectivement très important de parler de ce sujet, donc qu'on appelle maintenant la grossophobie, donc et de parler effectivement du regard sur les personnes obèses, donc le regard que les personnes obèses portent sur elles-mêmes, le regard que la société porte sur les personnes obèses, et aussi, puisque nous on est des professionnels de santé, le regard que les soignants porte sur les personnes obèses. Et donc, dans ce domaine, je pense qu'il y a beaucoup d'informations et aussi de formations à faire pour effectivement que les personnes obèses, en termes de santé en tout cas, puisque c'est notre métier, soient prises en charge le mieux possible.
Docteur Judith Aron-Wisniewski, est-ce que la stigmatisation des obèses est un frein à la guérison finalement? Parce que souvent, ça entraîne une dépression. En fait, la question qui suit, c'est est-ce que tous les obèses sont dépressifs à un moment de leur maladie?
Probablement pas, il faut peut-être pas faire une généralité. Cette stigmatisation les empêche parfois de consulter parce qu'ils ont subi des propos assez négatifs. Et on récupère dans le service beaucoup de patients qui, en fait, n'ont pas pu aller consulter un gynécologue, par exemple, depuis fort longtemps, du fait des mauvaises expériences dans le passé où ils ont reçu presque des insultes pour certains patients.
Oui, puis des insultes assez fréquentes, on l'entend dans le témoignage.
Y compris par des personnels médicaux.
Soignants aussi, oui.
Oui, parfois, oui.
Alors, on entend aussi les troubles de la santé que l'obésité entraîne. Gabriel Dédier parle d'apnée du sommeil, c'est courant. Comment est-ce qu'on l'explique, ça, professeur Aupert?
Alors effectivement, l'obésité est devenue un sujet médical, d'abord parce que l'obésité entraîne des maladies, et parmi les maladies chroniques les plus fréquentes aujourd'hui. Donc le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains problèmes respiratoires comme les apnées du sommeil, et l'obésité aussi associée à une augmentation de certains cancers.
Lesquels, donc, par exemple?
Le cancer du côlon. Le cancer du sein chez la femme, donc ce sont les cancers les plus fréquents dans la population, qui sont également associés à l'obésité.
Mais alors, le cancer du sein, par exemple, comment on l'explique? Quel est le rapport entre obésité, cancer du sein ou du côlon?
Alors, il y a différentes hypothèses et différents mécanismes. Pour le cancer du sein, on se réfère principalement à des modifications hormonales. Donc l'obésité, l'augmentation de la masse graisseuse est associée à des changements des hormones, en particulier les œstrogènes, les hormones de la reproduction. Et on sait que ces changements hormonaux peuvent favoriser le cancer, par exemple le cancer du sein. Et puis quand on a pris du poids, on a aussi plus d'insuline, une hormone qui circule, et on sait que l'insuline ou des facteurs un peu comme l'insuline sont des facteurs de croissance qui vont favoriser la prolifération cellulaire et peut-être le développement de cancer.
Docteur Aron-Wisniewski, il n'y a pas de recette miracle, c'est ça? Il faut donc une prise en charge qui soit à la fois globale et personnalisée. On parle d'obésité, mais finalement, chaque cas est différent.
Oui, ça c'est le maître mot. D'ailleurs, je trouve qu'en écoutant le témoignage qu'on vient d'entendre, on peut retracer toute l'histoire de vie, de poids de cette dame, et il faut adapter le discours et la prescription à chacune des étapes. Donc non seulement les maladies associées à son obésité, a priori l'apnée du sommeil, mais aussi à toutes ces histoires de régimes trop restrictifs qu'elle a pu subir et qui ont en effet pas forcément été efficaces.
Mais ça doit être compliqué pour vous, personnel soignant, il faut s'adapter à chaque cas. Ça complique votre tâche?
Au contraire, c'est ce qui rend les choses plus intéressantes. On parle de maladies chroniques, on connaît extrêmement bien les patients qu'on suit au quotidien. Et c'est ce qui est intéressant, c'est pas d'appliquer la même chose à tout le monde, mais c'est d'essayer de personnaliser les conseils.
Eh bien écoutez, restez avec nous évidemment, on va continuer ces débats dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'heure, c'est l'heure du Flash Info, donc on se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes. Priorité santé à suivre.
Priorité santé, Igor Strauss.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'obésité, une maladie en plein essor partout dans le monde. Selon l'OMS, 5,9 milliards d'adultes seraient en surpoids et 600 millions d'entre eux directement touchés par l'obésité. Alors, comment expliquer un tel phénomène? Quels sont les traitements existants? Suite de notre débat avec nos invités, le professeur Jean-Michel Aupert, chef du service de nutrition de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et professeur de nutrition à l'Université de la Sorbonne, et le docteur Judith Aron-Wijneski, maître de conférence, praticien hospitalier. Et puis à la fin de cette émission, nous parlerons des violences éducatives trop souvent banalisées en France. Et évidemment, comme tous les jours, nous attendons vos questions, vos réactions au 33 1 84 22 75 75. Mais tout de suite, direction le Sénégal. Nous sommes en ligne avec le professeur Maimouna Ndour Mbaye, professeur titulaire de médecine interne, endocrinologue, diabétologue au centre Marc Sankalé à Dakar. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Est-ce que l'obésité est un problème de santé publique au Sénégal?
Absolument. C'est un problème de santé publique. Nous avons fait récemment, en 2015, une enquête à l'échelle nationale sur un échantillon représentatif de la population sénégalaise qui montre que l'obésité est présente chez 6,4% de cette population, mais encore plus nette chez les femmes, 10% contre 2,5% chez les hommes. Ça, c'est l'obésité avec un indice de masse corporelle, comme l'a défini vos invités, supérieur à 30 kg par mètre carré. Mais quand on parle de surpoids, c'est-à-dire avec un IMC supérieur ou égal à 25, on est déjà à 22% de la population atteinte. Donc ce qui montre que cette obésité est bien présente, enfin ce surpoids qui va d'ailleurs, si on ne fait rien, mener à l'obésité vraie, l'obésité maladie, est bien présente dans la population sénégalaise.
Mais professeur, bien souvent en Afrique de l'Ouest, l'obésité est un signe de beauté, un signe de richesse. Est-ce que cela complique la lutte contre l'obésité en Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal?
C'est un gros problème, dans la mesure où cette obésité, ce surpoids ne sont pas considérés comme des facteurs de risque de maladie, et encore moins comme des maladies à part entière. Vous l'avez dit, l'obésité et le surpoids sont des critères d'aisance sociale. Ce sont des critères de beauté. D'ailleurs, dès qu'on m'a parlé de cette émission, j'ai vérifié est-ce que nous organisions toujours au Sénégal ce concours de beauté que l'on appelle Miss Djangoma. La dernière édition a bien eu lieu en 2017.
Alors les concours de Djangoma, en fait, c'est des concours de femmes rondes en français, hein, qui sont très fréquents en Afrique de l'Ouest. C'est des concours de beauté finalement.
Concours de beauté de femmes voluptueuses, bien en chair, bien enveloppées, parce que c'est cela la beauté africaine.
Et alors, les enfants sont moins touchés par les enfants africains, par l'obésité, que les enfants occidentaux. Comment vous l'expliquez, ça?
Effectivement, mais il faut dire que ceci peut être biaisé, parce qu'il y a eu moins d'études chez les enfants. Et ce qu'on note actuellement, c'est que plus la classe sociale s'élève, plus il y a des ans sur le plan matériel et financier, et plus cette obésité est observée, même chez les plus jeunes. On a fait quelques études partielles, certes, qui ont comparé les écoles privées où les enfants ont peut-être plus de moyens, les parents ont plus de moyens, comparé à certaines écoles publiques où les enfants sont peut-être un peu plus défavorisés, et on constate une prévalence du surpoids plus importante chez les populations qui ont des revenus plus élevés.
Alors, à mes côtés, le professeur Jean-Michel Aupert souhaite dire un mot. Professeur.
Alors je trouve que ce que dit notre collègue du Sénégal est vraiment passionnant, parce que on voit les différences dans les facteurs qui amènent à l'excès de poids en fonction des différentes régions du monde. Par exemple, dans un pays comme la France, on sait que au contraire, la fréquence du surpoids et de l'obésité est plus élevée parmi ceux qui ont moins de moyens, alors que ce qu'on vient d'entendre par rapport à la situation du Sénégal, c'est que justement c'est plutôt lié à l'aisance matériel, et en fait on retrouve plus d'obésité plutôt dans les catégories favorisées. Donc en fait, différents types de situations peuvent amener à cette même condition qui est l'obésité.
Professeur Ndour Mbaye, vous pointez du doigt les campagnes très offensives de l'industrie alimentaire au Sénégal.
Oui, Absolument, c'est un gros fléau et on le compare à des campagnes beaucoup moins présentes des professionnels de la santé. Peut-être que notre voix ne porte pas assez, en tout cas elle porte moins que celle des industriels de l'alimentation. Il faudrait que nous arrivions entre les autorités et les professionnels de santé à sensibiliser la population sur les dangers de ces consommations de produits industriels qui sont hautement caloriques et bien plus nuisibles pour la santé.
Mais docteur Aaron Wisniewski, est-ce que, comme certains pays le font, comme le Mexique ou les États-Unis, il faut faire des taxes notamment sur les boissons sucrées? Est-ce qu'il faut tenter de pénaliser l'industrie alimentaire, puisqu'elle a un rôle direct dans cette problématique de l'obésité?
C'est une réponse difficile et compliquée. A priori, enfin, de premier abord, on aura envie de répondre oui, mais je pense que c'est pas la seule réponse en fait. Parmi ces grands groupes industriels, il y a aussi des groupes assez vertueux qui font de la recherche en santé, dont certains d'ailleurs qui sont maintenant impliqués dans les protocoles de recherche européens. Et il n'y a pas seulement une volonté de nuire. Donc, je pense qu'on peut pas être aussi manichéen.
Professeur Aubert.
Alors, je pense que c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on pourrait effectivement travailler avec l'industrie pour que les produits qui soient offerts et distribués soient différents. Donc, peut-être que les taxes, c'est une façon de faire, mais en fait, l'objectif, c'est d'essayer effectivement que les produits, la fabrication des produits aboutissent à une offre qui soit différente. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, tous les moyens sont bons. Donc, peut-être que les taxes, c'est un moyen. Donc, c'est un moyen qui a prouvé, effectivement, parfois, dans certains cas, son efficacité pour diminuer la consommation d'un certain type d'aliments, comme les boissons sucrées. C'est pour ça que ça a été adopté dans un certain nombre de pays.
Professeur Maïmouna Ndourmbaye, quels sont les messages à faire passer? Je sais que vous voulez faire passer certains messages auprès de nos auditeurs. Lesquels?
Le premier message serait cette sensibilisation dont je viens de parler. Dans la mesure où l'obésité est largement ignorée en Afrique, il faudrait que les autorités gouvernementales, les professionnels de santé, tous, nous travaillions ensemble pour modifier cette image, cette perception plutôt positive du surpoids dans nos régions. Et puis également faire une éducation de la population sur la bonne nutrition et l'importance de l'activité physique.
Oui, manger moins gras, parce qu'on sait qu'au Sénégal, on mange quand même assez gras, peu de légumes, ou alors ils sont décoratifs. Il y a toute une éducation nutritionnelle à faire, c'est ça que vous voulez dire?
Exactement. Nous avons fait, dans cette enquête qui a été menée en 2015, nous avons constaté que le pourcentage d'adultes qui consomment moins de 5 portions de fruits et légumes par jour est aussi élevé que 70% dans la population sénégalaise. Cette population sénégalaise ignore l'effet protecteur des fruits et légumes quand on les met dans l'assiette. C'est juste à titre décoratif et on les retrouve par la suite dans la poubelle. Ou alors les fruits sont considérés comme un produit de luxe et donc pas indispensable dans l'alimentation.
Il y a toute une série de comportements à changer. Merci beaucoup, professeur Maïmouna Ndourmbaye. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de médecine interne, endocrinologue, diabétologue au centre Marc Sancalé à Dakar. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Priorité santé sur RFI.
Vous écoutez Priorité Santé, en effet, sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons d'obésité avec nos deux invités, le professeur Jean-Michel Aupert et le docteur Judith Aron-Wijneski. Alors, pour toucher le plus grand nombre, l'université Pierre et Marie Curie lance le premier MOOC français dédié à la prise en charge de l'obésité. Le MOOC, c'est une formation gratuite en ligne pour tout savoir sur la prise en charge de la personne obèse. Et c'est vous, docteur Judith Wijneski et professeur Jean-Michel Aupert, qui l'avez conçu. Qu'est-ce qu'une formation en ligne peut apporter de plus, finalement, docteur Wijneski?
Eh bien, ça permet de toucher un large public et différents types d'intervenants, à la fois des gens qui connaissent pas forcément grand-chose à la prise en charge de l'obésité, mais aussi éventuellement des médecins en formation ou des professionnels de santé intéressés par le domaine.
Mais pas que des professionnels, c'est
mais
ça?
Mais pas que, non.
Les associations de patients, notamment?
Les associations de patients, bien évidemment, et elles ont d'ailleurs travaillé avec nous pour construire cet enseignement.
Alors, un petit mot, on passe rapidement, le temps nous manque malheureusement, un petit mot sur les enjeux de la recherche. On en parlait dans ce sommaire, il est primordial de prévenir le développement de l'obésité pour enrayer une épidémie mondiale. Quels sont donc aujourd'hui les axes de recherche? Je ne sais pas qui de vous deux veut se lancer, professeur Aupert.
Alors, il y a différents axes qui sont complémentaires, mais qui sont assez différents. Il y a premièrement une partie de recherche vraiment sur les mécanismes qui conduisent à l'obésité, donc la biologie en particulier de l'obésité, qui s'intéresse beaucoup par exemple à nos cellules graisseuses, le tissu adipeux et aussi toutes les bactéries qu'on a dans notre intestin, vous savez, le microbiote, qui joue dans le développement des maladies chroniques. Donc ça, c'est toute une partie vraiment très importante. Et docteur Aron, qui travaille sur ces sujets, pourra peut-être vous en dire plus.
Eh ben, écoutez, à vous, docteur Aron, nous vous écoutons avec plaisir.
Donc, ce microbiote intestinal, c'est un des nouveaux acteurs qui fait le lien entre l'environnement, c'est-à-dire la nourriture, éventuellement l'activité physique ou l'environnement de manière plus large, et notre hôte. Et on commence à découvrir beaucoup de choses, beaucoup de maladies en lien avec ce microbiote. Et dans l'obésité, on pense que il peut favoriser l'augmentation du stockage énergétique et le développement de certaines maladies. Donc les enjeux actuels, c'est de mieux caractériser le microbiote d'une personne obèse pour pouvoir ensuite éventuellement le modifier pour trouver de nouvelles thérapeutiques.
Il y a suffisamment de moyens consacrés à la recherche sur l'obésité notamment ou pas?
En France, c'est difficile d'avoir des moyens pour la recherche de manière générale, mais
il y a d'autres pays plus en pointe.
Non, mais on peut aussi obtenir des financements via l'Europe et il y a des programmes en cours, en particulier sur le microbiote à l'échelon européen sur lequel on participe.
Allez, direction Pékin à présent. Nous sommes en ligne avec l'envoyé spécial permanent de RFI en Chine. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Igor.
Alors la Chine est devenue le pays le plus gras au monde. Aucun autre pays ne compte autant de personnes souffrant de surpoids ou d'obésité. Les autorités commencent à prendre le problème au sérieux, mais les habitudes culinaires ont radicalement changé avec l'ouverture du pays, Heike Schmidt.
Les Chinois ont succombé à l'invasion du fast-food américain. Les frites et les sodas remplacent aujourd'hui largement le riz ou encore les légumes cuits à la vapeur. On ne compte plus les KFC et les McDonald's et Starbucks. Le roi du café sucré envisage alors de doubler le nombre de ses filiales d'ici 2021. Si on y rajoute, Igor, que de plus en plus de Chinois vivent en ville et gagnent davantage, voilà donc un mode de vie qui fait grossir. Le col blanc typique ici se fait livrer sans plat cuisinier au bureau. 200 millions d'internautes utilisent des applications sur smartphone pour commander leurs repas. En 2016, les jeunes urbains auraient dépensé plus de 20 milliards d'euros pour se commander à manger, une augmentation de 360% par rapport à l'année précédente.
Alors, quel coût a cette révolution dans les assiettes?
Alors, la Chine compte aujourd'hui 43 millions d'hommes et 46 millions de femmes obèses, c'est-à-dire que 16% des hommes et 12% des femmes qui en souffrent dans le monde vivent en Chine. En tout cas, selon une étude du Lancet Medical Journal qui fait référence. Cette étude classe désormais la Chine au premier rang mondial derrière les Américains. Et le phénomène est particulièrement inquiétant chez les 7 à 18 ans. un enfant sur quatre sera obèse d'ici 2030, prédit un rapport publié par l'Université de Pékin pour la santé publique. Il faut savoir que c'est la première génération qui a grandi dans la nouvelle Chine, prospère, moderne et tournée vers l'Occident. C'est aussi la génération des petits empereurs, ces fils uniques auxquels on remplit généreusement l'assiette.
À propos de santé publique, Heike, est-ce que les autorités ont pris toute la mesure du problème?
En tout cas, elles ne négligent plus l'explosion de l'obésité, tout à fait conscientes que dans le sillage de l'obésité, eh bien, le diabète et les problèmes cardiaques vont peser lourd sur un système de santé déjà débordé. En 2016, Pékin a donc lancé le programme Healthy China 2030, une Chine en bonne santé pour 2030, et le président Xi Jinping a déclaré que le principe de la prévention devait être une priorité nationale. Il sait que l'explosion de l'obésité coûtera très cher. Selon les prévisions, la Chine devra doubler ses dépenses pour soigner les maladies chroniques chez les jeunes adultes.
Quelles sont les mesures concrètes pour combattre le fléau ?
Elles sont légion. Ça va d'une augmentation des heures réservées au sport dans les écoles, aux camps d'entraînement pour jeunes obèses ou encore aux hotlines téléphoniques où des nutritionnistes donnent des conseils. Il y a aussi des idées plus originales encore. Une université à Nanjing, dans l'est du pays, propose un cours d'amaigrissement. Celui qui perd au moins 7% de son poids passe l'examen. Et un entrepreneur à Xi'an encourage ses employés de manger moins pour gagner plus. Chaque kilo perdu est rémunéré 100 yuan, c'est l'équivalent de 13 euros, Igor.
Et les Chinois suivent-ils la tendance des opérations bariatriques ?
Il n'y a pas de chiffres officiels, mais le cas d'un milliardaire en surpoids a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'était fait retirer la moitié de son estomac et avait perdu 26 kilos en 3 mois. Des internautes ont calculé qu'en 2016, dans les hôpitaux chinois, près de 1000 tonnes d'excès de graisse auraient été prélevées, ce qui correspondrait au poids de près de 250 éléphants. Mais plus sérieusement, les Chinois se fient en masse au scalpel, avec une augmentation des opérations esthétiques de 40% sur un an. Mais c'est moins pour absorber les graisses superflues que pour remodeler le nez ou encore débrider les yeux, grâce à un faux pli à la paupière. Objectif, un look plus occidental. Vous voyez, les Chinois adoptent très facilement le mode de vie occidental, que ce soit pour les habitudes alimentaires ou encore pour des raisons esthétiques.
Merci Heike Schmidt. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial permanent de RFI en Chine. Bonne journée à vous. Professeur, opère très rapidement les opérations bariatriques. C'est une solution à long terme. Et puis, il faut peut-être rappeler ce que c'est d'ailleurs.
Alors, les opérations bariatriques, ce sont effectivement des interventions chirurgicales qui ont pour objectif de faire perdre du poids en modifiant l'anatomie de notre tube digestif. Donc, l'estomac est soit rétréci, où l'estomac est raccourci et puis on met une dérivation intestinale. Et ces opérations sont devenues de plus en plus fréquentes en France. C'est un vrai phénomène d'explosion de la chirurgie bariatrique, puisqu'on est passé à peu près de 13 000 opérations par an en France en 2006 à plus de 50 000 opérations actuellement par an en France.
Alors on dit qu'on a un petit peu négligé les conséquences psychologiques de ces opérations. Docteur Aaron Wisniewski, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y en a?
Oui, il y en a. C'est la raison pour laquelle, avant de décider d'une intervention, il y a besoin de faire une évaluation psychologique bien conduite pour dépister d'éventuels problèmes qui surviendraient dans le futur. Et puis l'ensemble des études qui existent actuellement se concentrent surtout sur le post-opératoire immédiat, voire dans la première année, et les études qui regardent l'évolution plus long terme sur plusieurs dizaines d'années sont plus rares, et donc on connaît moins bien ce qui se passe à plus long terme.
Est-ce que les anneaux sont encore utilisés aussi? Les anneaux qu'on met autour de l'estomac, c'est ça, hein?
Alors les anneaux sont très peu utilisés, donc les opérations qui sont le plus pratiquées en
France et dans le monde. C'est ce qu'on appelle le bypass, donc c'est un court-circuit. Donc l'estomac est réduit à une petite poche et il y a un court-circuit intestinal qui fait perdre beaucoup de poids, hein, de l'ordre de 40 kilos environ. Ou l'autre opération la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la sleeve, qui correspond à réduire l'estomac à un tube. Et cette opération fait aussi perdre beaucoup de poids. Ce qu'il faut dire, c'est que ces opérations sont très efficaces pour perdre du poids et pour améliorer certaines maladies associées à l'obésité, en particulier le diabète.
Priorité santé suite et fin avec un tout autre sujet à présent, les violences éducatives. Alors qu'elles sont encore considérées comme légitimes par un grand nombre de Français, la Fondation pour l'enfance a identifié 20 études démontrant les effets à court terme, moyen et long terme de ces violences sur la santé et le développement des personnes. Docteur Gilles Lazimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur des campagnes contre les violences éducatives ordinaires, maître de conférence à l'université Pierre et Marie Curie et membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Quelles sont ces violences éducatives? Quels sont leurs effets sur la santé et le développement des personnes?
Alors, les violences éducatives ordinaires, c'est l'ensemble des pratiques coercitives, punitives, qui sont tolérées, utilisées, voire recommandées dans notre société pour éduquer les enfants. Ça comprend les violences verbales, les violences psychologiques et les violences physiques. C'est ce qui est reconnu comme droit de correction, ce qui correspond à l'autorisation qui est donnée aux parents de frapper leurs enfants pour leur éducation. Ce sont des violences. Il n'y a pas d'autre mot. Elles vont avoir un impact et c'est le titre de la campagne. Frapper son enfant, c'est le marquer pour longtemps. Crier sur son enfant, humilier son enfant, c'est le marquer pour longtemps. En effet, ça a un impact sur la santé de l'enfant, d'autant que les parents qui frappent leurs enfants, pour 50% d'entre eux le font avant l'âge de 2 ans, donc avec des risques majeurs pour le développement de l'enfant, pour les connexions neuronales. Ça va provoquer une baisse de l'estime de lui-même, des troubles émotionnels, des troubles de santé physique et mentale, hein. Et puis ça va aussi amener cet enfant plus tard à être agressif.
Parce que la violence se transmet, c'est ça, hein?
Tout à fait, elle se transmet. Le meilleur lieu d'apprentissage de la violence, c'est la famille. Et si on frappe un enfant, on lui fait croire que c'est comme ça qu'on résout les problèmes, qu'on résout la relation. Et ça engendre que cet enfant peut devenir violent et qu'ensuite, les enfants étant victimes de violences de la part de parents qui les aimaient, parce que 90% des parents sont bienveillants, ils veulent le bien de leurs enfants, mais on utilise des méthodes d'un ancien monde et il faut qu'on cesse, comme pour les violences faites aux femmes, il faut qu'on cesse réellement et qu'on aide les parents à comprendre ce que sont les besoins de l'enfant, l'évolution de l'enfant, ce qu'on peut attendre d'un enfant. Il est clair qu'on ne peut pas exiger d'un enfant de 10 ans ce qu'on exige d'un enfant de 15 ans et qu'on ne peut pas exiger d'un enfant de 5 ans. Voilà, ça dépend de son développement et bien expliquer aux parents, bien les former. On veut vraiment une réflexion non culpabilisante et aussi une loi qui dise clairement tout coup porté sur un enfant, toute parole humiliante est une violence.
Mais vous parlez d'une loi, Gilles Lazimi, mais il y a une loi qui a été votée en 2016 contre les violences éducatives.
En effet, 350 députés l'ont votée, seulement elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme, à la demande de sénateurs LR les plus rétrogrades qui soient. Donc on est obligé de tout recommencer.
Merci
et là,
pour eux.
On est très embêtés, voilà. On est obligé de recommencer et ça fait 7 mois qu'il y a un nouveau ministère. On attend vraiment une parole forte du ministère de la Santé, puisqu'il n'y a plus de ministère de l'Enfance, pour qu'enfin, à nouveau, il y ait une loi et des mesures qui accompagnent. Notre but, c'est d'être pédagogique et d'accompagner les parents. Être parent, c'est dur, c'est difficile, c'est la chose la plus merveilleuse, mais on n'a pas appris à l'être. Il faut qu'on aide les parents, qu'on favorise les maisons des parents, les écoles de parents, les PMI. C'est vraiment indispensable pour qu'on ait demain des adultes épanouis.
Il faut passer d'un débat moral à un débat public sur le coût médical et sociétal de ces violences, c'est ça?
Alors, tout à fait. Mais le débat éthique est important quand même. C'est quand même incroyable qu'en France, il y ait des lois pour interdire les violences envers les adultes, mais pas pour les enfants, qui sont les êtres les plus fragiles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Mais malheureusement, pour convaincre, il faut qu'on parle des études. Oui, effectivement, il y a plein d'études qui montrent que quand on ne bat pas son enfant, quand on ne lui hurle pas, quand on n'utilise pas ces violences éducatives, eh ben, ils ont une meilleure vie, ils sont plus empathiques, ils réussissent mieux à l'école, ils ont une vie plus épanouie, et surtout, demain, ils ne seront pas violents.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, docteur Gilles Lazimi. Je rappelle que vous êtes coordinateur des campagnes contre les violences éducatives ordinaires, maître de conférences à l'université Pierre et Marie Curie et membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci pour toutes ces précisions. Bonne journée à vous.
Merci à vous. Au revoir.
Professeur au père, docteur Jutaron Wijneski, en ce qui concerne les enfants obèses, est-ce qu'on peut parler d'une forme de violence à leur égard ? Dans la mesure où on les laisse manger n'importe quoi et se faire du mal, finalement. Ou est-ce que je vais trop loin ?
Alors, il faut professeur pas aller, il faut pas aller trop loin, disons, parce que ça ramène à ce débat quand même sur la stigmatisation de certains comportements et une sorte de médicalisation aussi du mode de vie, qui est un vrai danger quand on parle de ces phénomènes comme l'obésité, parce que l'obésité c'est un phénomène de santé, mais c'est aussi un problème de société. Et donc, le vrai enjeu, c'est de savoir comment on peut favoriser des changements de comportement, alimentation, activité physique dans un sens favorable à la santé, sans être stigmatisant. Donc il faut vraiment favoriser les messages positifs.
Et insister sur la sensibilisation, tout simplement, sensibiliser les parents notamment.
Alors sensibiliser les parents, sensibiliser tout le monde en fait. Hein. Donc il y a un certain nombre de campagnes de nutrition de santé publique qui sont faites en France depuis des années, qui sont très importantes à poursuivre pour effectivement favoriser des comportements favorables à la santé en matière d'alimentation et d'activité physique.
Merci infiniment, professeur Jean-Michel Aupert. Merci à vous, docteur Judith Aron Wijneski. C'est la fin de cette émission réalisée par Didier Bleu et préparée par Assetous Maquet et Ophélie La Seine. Demain, nous parlerons des parasites indésirables les plus connus, poux, galles, morpions. Comment les éviter et s'en débarrasser? Quel traitement en cas de contamination, évidemment? Nous attendons vos questions au 33 1 84 22 75 75. Très bonne journée à tous et à demain. Et j'en pute sur le jingle, mais c'est pas grave. Bonne journée, à demain.
Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.